Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va évidemment parler, bah oui, la période de Noël a un petit peu commencé là ces derniers jours, il y a eu un 27 octobre un poil chargé, et donc en fait on va en parler une semaine plus tard, on va parler de Super Mario Odyssey, donc le gros morceau de la Nintendo Switch pour cette fin d'année, mais ce n'est pas le sujet principal de cette émission. Le sujet principal de cette émission, c'est Enterre-moi mon amour, application jeu sur Android et iOS, développé par The Pixel Hunt, Figs et Arte. Et nous avons le plaisir de recevoir Pierre Corbinet, alias Pierrec, alias @oujevipo sur Twitter, parce qu'on en parlera, mais tu as été auteur sur Enterre-moi mon amour.
Co-auteur.
Et donc, on va en parler parce que c'est, à mon avis, un jeu assez important et surtout qui aborde des thématiques qu'on n'aborde pas très très souvent dans le jeu vidéo. Mais Et puis peut-être en fin d'émission, si on a le temps, on parlera aussi de Golf Story. Oui, parce qu'on a un petit peu d'actualité à rattraper quand même. Hein. Je pense qu'on va galérer à peu près jusqu'au mois de décembre. Et puis après, on sera un peu à jour. Bref, et puis je commence donc en accueillant aussi un de mes chroniqueurs favoris. Ça fait plaisir.
Bah parce que pas revu depuis l'été.
Mais oui, on s'est pas revu depuis l'été. Corentin Benoît Gonin, décroissant.
Salut Erwan.
Et non pas décroissant, mais
Non, je suis pas décroissant, je suis décroissant.
L'application donc de podcast à la demande
Ouais, c'est plutôt votre matinale personnalisée quotidienne. Voilà. Donc là, on est en train de se lancer, c'est un nouveau média. Pour l'instant, on est en alpha test, donc c'est de l'hebdo, mais à terme, on sera en quotidienne. Et donc, c'est un podcast tous les matins. Vous avez votre émission personnalisée en fonction de vos goûts, de vos habitudes d'écoute. Et voilà, une vingtaine de minutes. Ça sera sur abonnement. Mais il y a une petite version gratuite aussi qu'on fera, qui sera plus courte.
Donc là, vous êtes en alpha depuis début octobre.
On est en alpha depuis la rentrée à peu près. Ouais. Et donc, on est en train de débugger toute l'application, tout l'algorithme qui est derrière. Car il y a un algorithme qui calcule qu'est-ce qui plaît à qui, comment ça se passe. Et donc c'est tout un système à mettre en place. Et puis, on espère pouvoir lancer une version définitive. Dès que ça sera possible d'un point de vue financier, voilà.
Ah oui, d'accord. Il y a d'autres contraintes que l'éditorial.
Bah là, en fait, on est en train de faire notre proof of concept d'une certaine manière. On est en train de voir si ça marche, si c'est possible. Avoir un vrai produit bien propre, histoire ensuite de pouvoir convaincre certaines personnes de nous aider dans cette aventure, si tu vois ce que je veux dire.
Je vois. Écoute, bon courage, mais bon, on est là aussi pour parler de jeux vidéo. On parle de jeux vidéo dans les croissants.
Absolument, j'essaie de m'en occuper, même si j'ai pas trop de temps. Et je suis en train d'affiner le format. radio court. Ce n'est pas forcément sorti. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur lescroissants.fr. Voilà.
D'accord. Eh ben, on va d'ailleurs commencer donc par une news avec toi, Corentin, avec des chiffres côté Nintendo.
Bah oui, alors tiens, j'ai une question pour toi, Erwan.
Wow.
Comment tu sais si ta nouvelle console marche mieux que la précédente ?
S'il y a des jeux qui sortent.
Si, bah, ou alors...
Qui sont annoncés.
Si en une seule année, tu espères en vendre autant que sur toute la durée de vie de la précédente. Voilà.
C'est un bon critère aussi.
C'est un bon critère. Donc voilà, donc Nintendo voilà, a fait le bilan de moitié d'année semestriel concernant le bilan, l'exercice fiscal 2017-2018 et 4,9 millions de Switch, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus. C'est quasiment. On arrive bientôt à la moitié de ce que la Wii U s'était vendue. Mais voilà, Nintendo espère en vendre 14 millions d'ici la fin mars. Et 14 millions, et ben c'est déjà plus que la Wii U qui s'était même pas vendue à 14 millions, qui était à 7 ou 8. Donc ouais, la Switch fonctionne en tout cas beaucoup mieux que la Wii U. En même temps, ce n'était pas très compliqué. 22 millions de jeux vendus également. Donc je crois qu'il y a un taux d'attachement assez intéressant. C'est-à-dire que beaucoup de jeux sont vendus avec les consoles, ce qui est toujours un bon signe. C'est-à-dire que les jeux se vendent également. Ils espèrent en vendre 50 millions d'ici mars.
Il y a des problèmes d'approvisionnement encore?
Alors, il y en a eu beaucoup. Et là, ça commence à se résorber. Il semblerait en fait que Nintendo ait du mal à s'imposer par rapport à des Apple, à des Samsung, pour ce qui est la mémoire, les composants qui forment la mémoire des consoles. Et comme Nintendo compte en vendre 14 millions en un an, Apple, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'iPhone qu'ils comptent vendre. Donc les niveaux de priorité pour les fournisseurs sont clairs. C'est d'abord les téléphones qui vont passer devant les consoles. Cependant, il semblerait que ça soit un petit peu résorbé. Ils vont tout faire pour en mettre pour Noël, qui est toujours le plus gros moment de vente pour Nintendo.
Mais pour Apple aussi.
Pour Apple aussi, c'est toujours un problème. Cependant, voilà, il semble que ça soit un peu résorbé, mais a priori, voilà, c'est toujours un vrai problème pour Nintendo, qui a énormément de mal à s'imposer à ce niveau-là, et en plus, qui n'a jamais eu de très bons deals avec les fournisseurs de composants, et qui fait que souvent, ils doivent mettre un peu plus d'argent sur la table pour avoir... la même chose, voire moins que la plupart de ses concurrents, y compris Sony et Microsoft d'ailleurs. Les analystes d'ailleurs estiment que les estimations de Nintendo sont encore un peu timides et qu'ils devraient même en vendre plus que ce qu'ils disent. On ne devrait pas battre la Wii quand même, qui reste une espèce d'exception dans ce que Nintendo a vendu en termes de console de salon. Ça s'était vendu à 100 millions. Mais voilà, Nintendo gagne aussi de l'argent sur un autre aspect qu'on oublie un peu en ce moment, c'est le mobile. Il se fait pas mal d'argent, notamment grâce à Fire Emblem Heroes, qui fonctionne mine de rien et qui est mis à jour. Mis à jour régulièrement voilà, il y a aussi Animal Crossing qui va sortir, qui a priori va fonctionner parce que c'est Animal Crossing et que ça fonctionne assez naturellement.
J'ai une question à la con, il y a encore du monde sur Miitomo?
Non. Faut pas déconner.
C'est le premier, donc.
Par contre, le paradoxe, c'est que Super Mario Run est plutôt un échec. Il s'est beaucoup téléchargé, 200 millions de téléchargements pour Super Mario Run, mais très peu d'achats finalement. Ce qui prouve que le business model que Nintendo a essayé de mettre en place avec Super Mario Run ne fonctionne pas des masses sur le mobile, où les gens sont plutôt habitués à du free-to-play, voire maintenant à du gachapon, tu sais, ce système où on t'y ressort. Bah, c'est ce qu'il y a dans Fire Emblem Heroes. Ouais.
Bah oui, c'est ça. Oui.
Mais voilà, Super Mario Run est paradoxalement pas profitable, alors qu'une licence moins forte Fire Emblem, apparemment, là, fonctionne plutôt bien, est mise à jour régulièrement, et apparemment rapporte de l'argent à Nintendo. A priori, les analystes estiment même que Nintendo va devenir d'ici 2 à 3 ans un des grands acteurs du mobile, au moins en termes de licence ou de profit.
N'oublions jamais que les analystes sont des cons. Hein,
c'est vrai, voilà. C'est vrai. Mais en général, les analystes dont il s'agit sont souvent prudents avec ce genre de choses-là, mais ils voient bien la... En fait, c'est surtout la dynamique. La dynamique de Nintendo sur le mobile est assez impressionnante. Ils sont pas encore full speed, on va dire, mais a priori, ça semble plutôt bon pour le futur. Après, face aux grands chinois, Tencent et compagnie, ils vont peut-être rester des nains, mais bon, après.
Il faudrait qu'on en reparle d'ailleurs de Tencent. Ah, il faudrait qu'on vous fasse une émission spéciale.
Quatre des plus grands jeux mobiles et chinois, donc voilà.
C'est dingue ce qui se passe avec Tencent. Je sais pas ce qu'il faut. On va trouver un spécialiste qui va nous parler de Tencent. Bref, le Comic-Con il y a 2 semaines. Oui, parce qu'il n'y a pas. Cette rentrée est un petit peu chaotique. Hein. On sait, c'est pour plein de raisons, mais on essaye de réguler le truc pour rétablir rétablir un rythme hebdomadaire strict comme on avait réussi à le faire la saison dernière, ne vous inquiétez pas. Bref, il y a deux semaines, on avait parlé de plein de choses, dont un jeu qui a fait parler dans les commentaires, c'est Divinity Original Sin 2. Avec Stonganov qui nous dit « J'avais beaucoup aimé Divinity Original Sin, premier du nom, que j'avais fini avec plaisir. Le 2 avait donc tout pour me plaire, car c'est supposé être une suite plus grande, plus belle, plus tout. Et c'est effectivement le cas, sauf que la difficulté, elle aussi, est bien plus grande que dans le premier, qui n'était pourtant pas une promenade de santé. Avoir un seul niveau de différence avec les ennemis que l'on souhaite aussi rend le combat très, très périlleux pour notre groupe. » Sachant que quand il y a de nombreux ennemis, un combat peut prendre au bas mot 30 minutes. La frustration après des échecs répétés est donc parfois décourageante. Pourtant, je joue en mode normal et je galère. Le pire est que d'après les différents retours que j'en ai, la difficulté va crescendo, ce qui n'est pas pour me rassurer. Pas sûr que j'ai la ténacité pour finir ce second opus.
Mais est-il bien stuffé ? Ça, c'est la question.
Et moi, je dis, il ne faut pas avoir honte du mode facile.
Eh oui, c'est vrai.
Voilà, jamais, jamais avoir honte du mode facile. C'est pas grave, c'est pas grave
c'est
de finir les jeux.
C'est d'avoir prendre du
plaisir. Voilà, ce n'est pas grave de finir en mode facile. Alain San, toujours sur Divinity, hein, une série non marquante que seuls quelques fanatiques connaissent. Je suis sans doute un fanatique, mais sérieusement, cette série est très loin d'être anodine. Chaque épisode de la série est incroyable, avec pas mal de bugs, marque de fabrique de l'Ariane. Mais le Divan Divinity était tout bonnement extraordinaire. Le Divinity 2 Ego Draconis est largement dans mon top 20 des meilleurs RPG action de tous les temps. Jeu dont je n'avais jamais entendu parler, mais c'est pas grave. Cette série est d'une richesse impressionnante. L'univers de cette série n'est pas une repompe de Donjons et Dragons. Elle a sa propre mythologie qui est d'ailleurs expliquée par les Original Sins. Et enfin, un commentaire que j'aime beaucoup, Red, qui est étant malheureusement allergique au tour par tour. J'espère tellement un jeu de cette série, mais avec des combats à la Baldur's Gate. Moi, je suis pas du tout allergique au tour par tour.
Non, j'aime bien le tour par tour.
Ça me laisse le temps de réfléchir.
Je crois même que
c'est tout ce que je supporte.
Mais oui,
le temps réel, j'y arrive pas.
Mais non, le temps réel, je sais pas, c'est l'âge, c'est la dextérité, je n'y arrive pas.
Les goûts et les couleurs. Hein.
C'est ça, le tour par tour ou le temps réel. Bref, on va donc commencer cette émission et on va parler donc de ce jeu sorti il y a quelques jours. Donc je l'ai dit, coproduit par The Pixel Hunt, Fix et Arte France. Enterre-moi mon amour. Enterre-moi mon amour, donc jeu mobile iOS Android, sorti il y a quelques jours. Vous avez commencé à communiquer il y a quelques temps déjà, donc on avait eu le temps de l'attendre pour le coup. Jeu important parce que c'est rare d'avoir des sujets aussi politiques, aussi liés à l'actualité qui arrive. On connaît donc Florent Morin, donc The Pixel Hunt qui a fait depuis longtemps du sorte de news spécialiste en news game, hein, donc jeu lié à l'actualité. Il avait bossé pour Le Monde, lemonde.fr notamment. Comment est-ce que l'histoire de ce jeu a commencé ? C'est avec ce long format du Monde ?
Oui, c'est ça. En fait, l'idée du jeu, elle a été inspirée par vraiment deux grandes sources. La première étant un article de Lucie Soulier sur lemonde.fr,
ouais,
qui s'appelait « Dans le fil WhatsApp d'une migrante syrienne », quelque chose comme ça, et où du coup, une conversation WhatsApp traduite, éditée, et où du coup on pouvait suivre le voyage.
Elle est toujours disponible, hein, donc on peut aller voir. C'est effectivement super bien fait. Donc c'est sur le site du Monde où c'est sous forme de conversation WhatsApp. Et c'est vrai que quand on découvre ça après avoir joué à Enterre-moi mon amour, on voit le lien de parenté, ouais, très clair. Ouais.
Et du coup l'autre source d'inspiration, c'était simplement Lifeline, qui était du coup un jeu mobile qui utilisait cette idée de conversation et de temps d'attente. Et qu'on avait tous les deux beaucoup aimé avec Florent. Et en même temps, on avait été tous les deux beaucoup frustrés par Lifeline. Moi, quand j'y avais joué, c'était un jeu du coup qui se vendait comme étant un jeu qui va se jouer sur la durée avec des temps d'attente. Mais sauf que dans les faits, en deux jours à peu près, le jeu était fini. et que du coup on avait aussi l'envie de faire quelque chose qui puisse tenir pour un plus longtemps, qui puisse tenir toute une semaine.
Et donc, En termes de mon amour, pour le décrire, c'est un jeu narratif, hein, donc c'est, on suit par l'interface WhatsApp, bon, c'est, ça rappelle
Simili WhatsApp,
l'interface de Majd, donc, qui est le mari de Nour, donc c'est les deux personnages principaux de l'histoire. Nour, et donc, ça commence en Syrie en 2015, je crois.
2016, début 2016.
Début 2016.
Ah, mais, enfin, le prologue se passe en 2015.
Ah oui, voilà. C'est ça, le prologue dans la région d'Alep.
À Homs, ouais.
À Homs.
Pas exactement.
Pas du tout. Non, mais pardon. C'est dans la région, à Homs, c'est des villes dont on a entendu parler de France par les tragédies qui se sont déroulées. Et donc, Nour décide de partir, décide de rejoindre l'Europe et commence donc sa migration, son voyage. Est-ce qu'on peut appeler ça un voyage ? Oui, c'est un voyage. Pas vraiment dans les conditions, les bonnes conditions. Mais donc, on va, par cette interface-là, Maj de lui est resté pour s'occuper
de ses parents.
De ses parents.
Voilà. Ouais. Et qui n'est pas explicité, mais c'est ça l'idée.
Et donc voilà, Maj de Syrie va suivre l'évolution du parcours de Nour par des conversations. Alors, c'est beaucoup de lectures, c'est beaucoup des petites interactions et puis des choix, beaucoup de choix, beaucoup d'embranchements, de choses comme ça, qu'il va falloir faire dans la conversation pour conseiller Nour, pour lui dire de faire ou ne pas faire. Vu qu'elle est indépendante, elle n'obéit pas tout le temps. Hein, elle a son libre arbitre,
mais
évidemment.
Mais c'est pas du tout un Tamagotchi, quoi.
Non, mais là, c'est pas un Tamagotchi, c'est des conseils. C'est une conversation, en fait. C'est un jeu conversationnel, comment on pourrait appeler ça. Ça s'est passé comment le développement ? Ça doit pas être évident, en fait, de...
Pour l'écriture ?
Ouais.
C'est pas particulièrement plus difficile, si ce n'est qu'il y a énormément de documentation. Mm. Parce que on peut pas inventer, on n'invente rien en fait, on écrit pas n'importe quoi. Donc c'est un jeu qui est complètement fictionnel, mais inspiré, presque tout ce qu'il y a dans le jeu va être inspiré d'événements réels, d'histoires réelles qu'on a pu collecter.
C'est vrai que le journalisme entre en jeu d'une certaine manière.
C'est ça, on a tous les deux une formation de journaliste avec Florent Morin déjà. Et en fait, on a travaillé du coup avec une réfugiée syrienne qui est aujourd'hui en Allemagne.
Dana.
Dana, qui nous a beaucoup aidé sur la création du jeu, qui nous a raconté son parcours, avec qui on est resté en contact sur WhatsApp justement. Ouais. On se servait de WhatsApp pour du coup lui poser plein de questions constamment lors de l'écriture du jeu. Et ensuite, beaucoup de documentation diverses, aussi bien sur Internet qu'en médiathèque, que contacter des journalistes, des associations. Et ce genre de choses.
Parce que c'est vrai que même en fait dès le début de l'histoire, et c'est ce qui pour moi rend, alors c'est un des différents aspects, hein, parce qu'on parlera des autres, mais c'est que à chaque fois qu'on se connecte, alors voilà, on va d'abord expliciter en termes de gameplay pur, il y a deux modes de jeu, un mode rush, on va dire, hein, où finalement cette conversation WhatsApp ne s'interrompt jamais et le temps avance au fur et à mesure en fonction des conversations.
Là, ça va durer quelque chose comme 2 heures peut-être, si on
rush vraiment peut-être un peu plus. Il y a beaucoup
de lectures. Ça dépend aussi du rythme de défilement des
messages. Oui, voilà, c'est ça.
Si on veut aller au plus vite possible, c'est peut-être possible de spirit de runner le jeu en 2 heures.
Ouais, peut-être.
C'est pas vraiment le but.
Et il y a le mode de jeu temps réel, donc où, en fait, finalement, on va faire chaque conversation. Si elle doit prendre un bus, si elle doit passer une nuit, si elle doit dormir, voilà, les conversations vont s'arrêter. Et on recevra une notification façon notification WhatsApp quand Nour désirera nous reparler ou aura la possibilité de nous reparler.
C'est en ligne, elle n'a pas de réseau.
Voilà, elle n'a pas de batterie, parce qu'on voit, on est confronté à tous ces problèmes-là. Et c'est Lifeline, en fait. C'était vraiment le
jeu. Il avait plutôt été pensé pour être joué, pour jouer avec ce temps long. Mais on a bien conscience aussi que les gens vont peut-être vouloir jouer plus d'une fois, parce qu'il y a 19 fins possibles, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'arborescence, d'embranchements. On peut jouer 2 fois au jeu sans lire deux fois la même chose. Et peut-être voire 3. Mais en tout cas, il y a 19 fins différentes. Et on s'est bien rendu compte que, bah, une fois que les gens ils auront joué quand même une fois en temps long, ils vont peut-être avoir envie de rejouer pour tester d'autres choses et qu'on voulait donner aussi cette possibilité d'aller un peu plus vite une fois la découverte.
Et donc, ce que tu as dit sur les sources et la documentation, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on allume Enterre-moi mon amour, on apprend. Enfin, pas que de la géographie, hein, Corentin.
Non, mais alors, juste pour préciser, donc on a plein de lieux, plein de villes qui apparaissent dans les discussions. Et voilà, dans notre tête, on se fait une espèce de carte mentale. Mais dans le jeu, il y a une carte en haut à gauche. On peut appuyer dessus et on voit en fait le périple de Nour. Et c'est super. Moi, c'est une de mes fonctionnalités préférées. C'est pas, ah ouais, elle a parcouru tout ça. On voit le voyage en avion qu'elle peut faire à un moment donné si on a fait certains choix. Et c'est moi, je suis passionné. Je me dis, ah oui, donc elle a fait comme ça. Et ah oui, là, il va y avoir des problèmes. Là, c'est Schengen. Là, ça va être compliqué. Et ça, on voyage un peu avec elle, du coup, et ça, juste grâce à des micro-messages, je trouve ça assez fort, d'une certaine manière.
Ça me fait plaisir. Pour ce qui est des lieux, il y en a peut-être une petite cinquantaine de lieux, je crois, qu'on peut visiter. Parce que je crois que lors de mon talk, par lequel on peut passer, lors de mon talk à l'Indicate, je crois que j'ai annoncé 32 et qu'après je me suis fait corriger par Florent qui me dit non, mais en fait c'est beaucoup plus. Mais donc, oui, en effet, dans une partie, on va passer par une quinzaine de lieux, quelque chose comme ça.
Et donc, et un des points, moi, que je trouve aussi. En fait, je ne savais pas parce que, Pierre, on se connaît pas, on s'est jamais rencontré avant. On s'est déjà parlé parce que j'avais fait ton portrait dans Libération, notamment avec Lou Jeux Vipo, donc qui est ce site, l'ouvroir de jeux vidéo potentiel, qui est ce site qui un peu parle du jeu vidéo sous contrainte et du jeu vidéo un peu alternatif et des game jams et ce genre de choses. Et en fait, tu as créé des petits jeux, des jeux de game jam depuis longtemps et qui étaient tous basés sur les dialogues. Moi, quelque chose qui m'a vraiment intéressé dans Enterre-moi mon amour, c'est finalement d'humaniser énormément. Parce que quand on regarde BFM TV ou iTélé ou France Info ou n'importe quoi, on parle des migrants, on parle du problème des migrants des migrants qui meurent dans la mer, mais si on a été horrifié les premiers temps, ça devient tellement une actualité de flux que ce ne sont plus que des chiffres, alors on sait que ce sont des êtres humains bien sûr, mais c'est compliqué d'avoir ce rapport à l'humanité comme ça avec les informations en continu. Et là, d'un coup, on est sur une histoire particulière, on est impliqué dans une histoire particulière par des dialogues, par des choses comme ça, et on humanise un parcours. Je pense que c'était aussi l'objectif dès le départ.
C'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on avait en tête, cette idée de remettre un peu d'humain dans ce concept des réfugiés, parce que comme tu dis, c'est traité comme flux, toujours comme des flux, des masses dans les médias, mais même pas forcément dans les mauvais. C'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste simplement qu'on s'intéresse au macro dans la presse. Oui. Donc oui, c'était complètement l'intention. C'est-à-dire que le jeu, on n'a pas du tout soufflé le jeu avec une volonté politique. C'est pas un documentaire, c'est pas un projet éducatif. C'est pas du tout ça nos intentions. Nos intentions, c'était vraiment de raconter une histoire et de remettre du coup un peu l'humain au cœur de ces...
Et ce qui va avec l'humain, et c'est peut-être aussi une des performances de ce jeu, c'est l'humour. Parce que, Enterre-moi mon amour, alors, le titre, juste petit aparté sur le titre, parce que c'est quand même un titre assez... assez
voilà, non mais... Alors qu'il faut pas.
Voilà, c'est une expression.
Ouais. C'est l'expression syrienne, que je ne saurais pas prononcer, mais qui se traduit donc par Enterre-moi mon amour, et c'est une phrase un peu d'amour de
support jusqu'à la mort. Quoi.
C'est quelque chose comme ça, c'est dire je t'aime tellement que je ne pourrais pas supporter de te voir mourir. Ouais. Donc du coup je préfère mourir avant toi tellement je t'aime.
Ouais, voilà.
Ça se tourne un peu comme ça.
C'est positif finalement.
En fait c'est positif. En fait, c'est pas du tout macabre ou quoi que ce soit.
Et dans ce récit aussi on parle de la Syrie, on parle des migrants, des réfugiés, des camps de réfugiés, des traversées en mer, mais c'est une conversation WhatsApp, mais c'est une conversation entre deux personnes qui se connaissent énormément, qui s'aiment, et c'est plein d'humour, de choses comme ça. Est-ce que c'était évident dès le départ, ce ton ?
Ça l'a été assez rapidement parce que c'est un ton que du coup on pouvait déjà un peu retrouver dans l'article du Monde qu'on évoquait plus tôt,
ouais.
Même si peut-être on l'a poussé un peu plus loin. Et que surtout, en fait, en discutant avec Dana, qui est une personne très drôle et pleine de bonne humeur et d'humour, du coup. Et on a voulu, même si du coup, on n'a absolument pas voulu raconter l'histoire de Dana, c'est absolument pas une histoire vraie ou quoi que ce soit, mais du coup, évidemment, cette personne-là nous a beaucoup inspiré le personnage de Noor, qui elle aussi ne manque quand même pas d'humour et de bonne humeur.
Ouais, ouais.
Et il y a aussi un truc qui est assez important, qui est qu'en fait, les réfugiés qui vont rester en contact avec leur famille via WhatsApp, leur but, c'est pas d'inquiéter.
Oui, mais on le sent vraiment.
Ils essayent plutôt de les rassurer constamment. Et c'est en fait ce qui se passe aussi avec Noor, qui va pas forcément raconter à Maj, donc aussi aux joueurs, tout ce qui lui arrive et qui va sans doute lui cacher les parties les plus sombres du voyage.
On sent les ellipses, les choses comme ça. On sent des fois quand
elle ment
pour protéger, pour nous protéger en fait.
Là, ouais.
Et je me posais la question, car dans le jeu, donc on a cette conversation WhatsApp qui est parfois un petit peu avec une écriture parlée un petit peu, genre voilà, il y a parfois des fautes d'orthographe ou faites exprès parce que parfois un Noor essaye de profiter de la vie aussi, va boire un coup, revient, galère pour écrire certains mots. Bon, c'est ce genre de choses qui arrivent. Mais voilà, par moment, et c'est peut-être une légère critique, hein, mais on a l'impression que le jeu est peut-être trop écrit. C'est-à-dire que, genre, c'est pas t'es où, c'est où es-tu. Ou alors, voilà, des phrases avec l'inversion du verbe du sujet qu'on a plus tendance à faire dans les SMS, qu'on a tendance à parler rapidement, machin. Et surtout, je me dis, dans l'urgence d'un tel voyage, je me dis, bah, elle va quand même écrire beaucoup plus rapidement que ça. Et non, pourtant, c'est dans un français parfois nickel.
Même si c'est venant de Noor.
Ouais, venant de nous. On a l'impression parfois que c'est un peu forcé, genre ah oui, c'est bien écrit, mais on sent que c'est quand même quelqu'un. J'ai ce sentiment là, c'est étonnant de voir ça dans un SMS. Alors, moi, c'est pas forcément une critique parce que je me dis dans un jeu vidéo, on va essayer de pas faire des fautes d'orthographe exprès, ce genre de choses. Mais alors, quand on écrit pour ce genre de jeu vidéo, où est-ce qu'on met le curseur entre le langage SMS total incompréhensible et l'écriture littéraire parfaite sans bavure?
Ben, c'est vraiment pas simple. on avait quand même pris à la décision que Majd, le personnage de Majd, écrivait de manière beaucoup plus, pas empoulée, mais en tout cas écrivait de manière plus structurée que Noor, parce qu'il est du coup plus âgé aussi, et il est moins habitué à tous ces trucs WhatsApp, au smiley, il est moins là-dedans. Après, on a essayé de garder, du coup, ouais, voilà, comment réussir à garder cette écriture vivante, mais donc ne pas faire des typos tout le temps. Il y en a des fois, on en joue, on a joué un peu là-dessus. Mais ouais, non, je ne saurais pas vraiment répondre à la question où placer le curseur. La réponse, c'est en fait, c'est ce qu'on a fait. On a essayé de naviguer un peu entre les deux, faire un truc qui sonne vrai et juste, mais qui soit agréable à lire aussi, qui ne demande pas un effort de...
Mais il y a eu ce choix aussi de... qui est en fait un choix finalement ultra réaliste, que je trouve, moi, qui rajoute une surcouche de réalité, c'est les smileys.
Ouais.
C'est, on joue sur les smileys, sur la galerie des smileys les plus utilisés. Je ne sais pas, il y en a combien, il y a plus d'une dizaine, une quinzaine différents utilisés dans, qui sont les smileys standards. Hein, mais des fois, on ne répond que par smiley, ou il y a des échanges de smileys comme ça, comme dans une conversation WhatsApp. Ça me fait pas... Finalement, c'est un nouveau genre d'écriture. On écrit, c'est un nouveau langage d'écriture de smiley, en fait.
Et moi, en plus, qui est, pour moi, je ne suis pas particulièrement familier avec l'écriture smiley, je ne suis pas très emoji, je ne suis pas très WhatsApp. Ouais. Mais du coup...
Oui, c'est vrai qu'on dit emoji maintenant, pardon.
Dans la plupart de l'écriture, je vais peut-être plus être proche de Noor dans sa manière d'écrire ou quoi que ce soit. Et autant sur le côté emoji, il y a le côté un peu mage d'un... un peu réac de l'emoji qui s'est jamais très très bien. C'est pour ça, et c'était ça qui nous amusait dans le choix et tout. Ah, là, je vais répondre à un smiley, mais je sais pas trop quoi répondre. On va essayer celui qui sourit. Et c'est un peu ce qu'on voulait faire, parce qu'on voulait que Maj ait ce caractère-là, du mec un peu mal à l'aise avec ces codes-là.
On parle des emojis qui est une des façons, enfin, un des moyens d'envoyer des signaux à travers d'une conversation WhatsApp, mais il n'y a pas que ça. Genre, on en discutait hors émission, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, et moi j'ai adoré ce passage, dans la conversation. Donc vous savez, ce moment où vous êtes sur Messenger ou n'importe quelle application, et que la personne en face écrit puis il efface, et puis ça réécrit, puis ça efface, puis ça réécrit, puis au bout d'un moment, il y a le message qui part, et là, on se dit, elle a quand même mis beaucoup de temps pour écrire ce message, elle a raturé, recommencé, c'est donc qu'elle a choisi ces mots. Enfin, ça envoie aussi ça envoie un message finalement, quand elle hésite, genre, ah là, elle me cache quelque chose, là, elle est pas confiante. Et du coup, voilà, c'est très intéressant de voir ce genre d'éléments dans finalement quelque chose qu'on a tous les jours, qui permettent nous d'avoir une accroche dans la réalité, qui s'ajoute évidemment à tous les aspects techniques qui est les notifications, le design de l'UI qui est entièrement basé sur WhatsApp. Voilà, j'imagine que ça a dû être amusant aussi d'utiliser tous ces signaux non-verbaux, non ?
Ouais, mais ça, du coup, par contre, ce petit cas de figure-là, c'était pas du tout prévu dès le D'accord. départ. Et c'est vraiment au cours de l'écriture, à un moment, j'étais en train de taper des choses et que. Paul, le développeur, Paul, est-ce qu'on peut avoir ça dans le jeu ? Parce que là, il le faut, là, maintenant, là, c'est… Et puis, du coup, bah oui, alors, tant mieux, on a pu l'intégrer.
On va continuer tout à l'heure à parler de « Enterre-moi mon amour », et puis on parlera aussi un peu de ces game jams, de ces trucs comme ça, parce que, bah, on a la chance de t'avoir, donc voilà. Mais on va aborder un des très gros titres de cette fin d'année. Évidemment, ça sort sur Switch, c'est annoncé dès l'annonce de la Switch, on savait qu'il allait arriver très vite et on l'attendait un tout petit peu. Super Mario Odyssey. Alors, comme d'habitude, et c'est peut-être un des problèmes de... Non mais bon, Princess Peach est enlevée par Bowser. Voilà. Et Mario va la sauver, et voilà, et c'est parti. Et il arrive avec une histoire de chapeau, hein, d'un chapeau qui s'appelle Capi, hein, et qui va pouvoir lancer. Et voilà, on va arriver et on va pourchasser Bowser à la recherche de la princesse. Il va falloir un jour qu'il fasse quelque chose à ce propos.
Alors, tu rigoles et tu blagues. Cela dit, dans la mise en scène que Nintendo a mis au début de ce Mario Galaxy, on ne peut pas leur enlever le fait qu'ils ont bien compris que ce scénario n'avait aucun intérêt.
C'est vrai,
ça démarre en pleine action. Genre, il n'y a pas eu de capture. Hein. C'est genre, Princess Peach est déjà capturé. Ouais. Mario est sur le bateau de Bowser.
On
ne sait pas comment, c'est pas ce qui s'est passé. Et Mario se fait bolos, il se fait tège du bateau et il tombe donc dans le pays des chapeaux où il va faire la rencontre de Capi, etc. Nintendo a dit, c'est bon, vous connaissez l'histoire, on enlève
The
ça.
The princess is in the Nether Castle, donc, tout ça.
Voilà. Donc l'histoire, on s'en fout.
Hein. Oui, non, c'est
ce qui est important, c'est le jeu. De toute façon, Nintendo, c'est pas son point fort particulier en général les histoires, hormis quelques séries. Mais là, voilà, le jeu commence directement avec Mario Odyssey. Un petit point de contexte quand même, puisque ce Mario Odyssey est le premier vrai Mario 3D sorti. Alors, certains diront depuis Super Mario Galaxy 2 qui était sorti donc en 2010, mais en vrai, on peut quand même citer Super Mario 3D World qui était sorti sur Wii U en 2013 et qui était excellent, hein, y a pas de souci. Gens attendaient le côté un peu plus exploration, un peu plus ouvert qu'il y avait dans les Mario 3D traditionnels.
C'est compliqué de considérer Super Mario 3D World comme un Mario canonique, en fait.
Si, c'est complètement canonique, mais il n'est pas tout à fait dans la même famille, on va dire. Voilà, il est un petit peu à part. Il est dans une famille un peu beaucoup plus linéaire. Déjà que les Galaxy 2 pouvaient être critiqués pour leur linéarité. 3D World, c'est une linéarité complètement assumée. Et donc, c'est plus un challenge de plateforme, voire de plateforme multijoueur. Et les gens voulaient une vraie aventure Mario plutôt solo avec un peu plus d'exploration comme on pouvait avoir dans 64 et encore plus dans Sunshine qui était sorti en 2002 sur GameCube, ça remonte. Et donc voilà, ce Mario Odyssey, il avait été présenté comme un grand voyage avec beaucoup d'exploration et surtout un nombre invraisemblable de lunes qui sont les étoiles de ce Mario à trouver partout dans des grands mondes à explorer à l'envi avec la fonctionnalité principale et qui a été mise en avant, donc Capi, le chapeau de Mario qui est vivant et qui permet à Mario d'incarner les monstres, les mêmes amis ou des objets qu'on va rencontrer sur son chemin. Mario jette sa casquette.
Ouais.
La casquette va sur la tête, par exemple, d'un T-Rex, comme on peut voir derrière nous. Et le T-Rex va avoir une moustache, la casquette. Et en fait, c'est nous qui contrôlons le T-Rex. Nous sommes dans le T-Rex, nous sommes le T-Rex et on casse tout.
Grosso modo, une des bonnes idées, c'est que ça arrive très vite.
Ça arrive très vite.
C'est peut-être une des premières incarnations, pas tout à fait la première.
C'est la grenouille.
Oui, la grenouille. Et puis, il y a les chiens, là.
Les chompes.
Les chompes après. Et en fait, ensuite, le T-Rex, ça arrive très, très vite.
Ça arrive assez vite. Il y a un côté un peu exutoire à être un énorme dinosaure et à tout casser.
On vous explique que vous allez pouvoir vous amuser.
Voilà. On vous explique surtout que voilà, les gameplays vont être variés, exigeants. Et comme d'habitude, avec Nintendo, c'est irréprochable. Ça répond au doigt et à l'œil. Il y a une vraie variété dans les mouvements. Il y a une précision dans les sauts, dans la manière dont c'est construit. Le monde est fait pour vous. C'est un terrain de jeu qui est fait pour les mouvements de Mario. Les mouvements de Mario sont faits pour le monde. Et on sait
que tout va bien.
Tout va bien.
Dans le meilleur des mondes de Mario.
Les mondes sont variés. Donc on a ce qu'on voit derrière nous. Donc là où il y a le T-Rex, c'est le monde des chutes. C'est un monde
10,
un peu préhistorique. On va pas donner le nom parce qu'en vrai, c'est un petit peu spoiler. On va nous embêter. Mais il y en a plus d'une dizaine, on va dire, pour faire général. Il y en a plus que vous en aurez vu dans les trailers et différentes présentations de Nintendo Direct. Il n'y en a pas beaucoup plus non plus, mais il y en a quand même un certain nombre. Donc on va avoir quoi? On va avoir un désert, un monde de glace, un monde de cuisine très étrange où ce sont des fourchettes qui cuisinent au pied d'un volcan avec des légumes géants.
Un monde de forêt, New York.
New Donk City qui est du coup dans le lore canonique, qui est rempli de clins d'œil et qui serait donc la ville où se déroule Donkey Kong en arcade, où on va sauver Pauline qui est la mère de New Donk City et qui chante toute la gloire de Mario et du joueur qui le contrôle. C'est formidable, ça casse le quatrième mur, mais on s'éclate bien. C'est un feu d'artifice de paysage, de gameplay, puisqu'on incarne tous ces gens-là, on les incarne, on peut incarner tous ces trucs-là, de mini-jeux par moment,
ce qui est assez impressionnant, c'est quand même à chaque fois qu'on a. Il y a un côté très Kirby finalement aussi.
Oui, absolument, mais tu as raison.
Dans le fait de contrôler d'autres types de personnages avec des capacités différentes. Mais du coup, ça crée. Alors, Mario a une palette de mouvements qui est assez gigantesque pour un Mario. C'est assez impressionnant, même quand on n'incarne pas d'autres personnages, entre le saut en avant, le saut en arrière, enfin, tous les types de sauts, tous les.
Étant un grand amateur de Mario 3D et speedrunnant un peu Mario 64, c'est la meilleure palette de mouvements de tous les Mario confondus.
Et en plus, on a des mouvements différents à chaque incarnation. Et ça, c'est assez, avec un mouvement spécial, enfin avec un geste. On va dire, on peut se déplacer ou pas. Ça arrive qu'on puisse pas, mais on peut se déplacer et avoir un type d'action
Alors Mario restant le pinacle de la mobilité, du saut. C'est-à-dire que très souvent, on est un peu embêté parce qu'on aimerait bien emmener cette capacité de ce monstre de l'autre côté du mur, mais le monstre saute pas ou ne saute pas assez haut, et donc c'est compliqué. Souvent, il y a des énigmes à base de ça. Hein. Il faut emmener ce monstre de l'autre côté, comme on fait, sachant qu'on ne peut pas sauter normalement. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Et c'est là où j'arrive sur les petits points qui m'ennuient. Alors, avant de donner les mauvais points, je tiens à préciser que Mario Odyssey se bat au pinacle des jeux de plateforme. Hein. Il est excellent. Il n'y a pas de problème. C'est un excellent jeu. Ne me tapez pas dessus. Je le compare simplement avec ses prédécesseurs qui étaient tout aussi excellents. Hein, on est d'accord. Ce Mario Odyssey est excellent. Il mérite tous les lauriers qu'il a reçus. Peut-être pas autant à mon sens, mais bon, on va y arriver. Donc, premier défaut, et je pense que c'est lié à mon sens à la palette de mouvements qu'on nous donne.
Ouais.
C'est quand même incroyable d'avoir cette magnifique palette de mouvements et de ne pas avoir le challenge qui va avec. On est un peu frustré. Le jeu est un peu facile quand même. Alors évidemment, il y a des phases. Là, vous voyez, on est dans ce désert. Difficile de tomber dans un désert, difficile de tomber dans un trou. Du coup, on est beaucoup plus axé sur l'exploration, ce qui va rendre heureux plein de gens. Il y a plein de gens qui demandent de l'exploration. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ce Mario fait très bien le job. Mais pour les amateurs de plateformes 3D comme moi, qui ont adoré Super Mario Galaxy 2 pour son level design, pour son exigence, pour une vraie maîtrise de la courbe de progression, de la difficulté, On reste un peu sur sa fin. Il n'y a pas vraiment de challenge vraiment difficile. Je ne demande pas à ce que le jeu soit difficile de bout en bout, mais même quand on arrive à la toute fin où il y a le fameux long challenge, ce niveau très long qu'il y a souvent à la fin des Mario, où il n'y a pas de checkpoint, on doit le finir en une seule fois, où c'est censé être très dur, c'est censé être le dernier défi, même là on finit, on fait « Ok, donc là j'ai atteint le pic de difficulté de Mario et finalement j'ai pas trop souffert ». C'est un peu dommage. Je suis un petit peu. Je te cache pas que je suis un peu sur ma faim à ce niveau-là. Et c'est le plus gros défaut que j'aurais à dire de ce Mario. Si vous êtes fan de plateforme 3D, que vous voulez un vrai challenge, vous risquez d'être un peu déçu. Pour tout le reste du monde qui aime bien juste se balader avec Mario et faire des choses bien, il est nickel, hein, y a pas de souci. Deuxième point, à mon sens, qui est un peu dommage, c'est peut-être un rythme un peu moins intense que dans 64 Sunshine, ouais. Galaxy. Le fait de récupérer des lunes, c'est anodin, quoi. C'est-à-dire que vraiment, vous... Et elles sont partout. Elles sont partout.
Ouais, c'est dès qu'il y a un passage qui n'est pas évident, voilà, qui est un tout petit peu secret, un tout petit peu caché, où en fait, grosso modo, il y a la route principale et on voit qu'il y a une petite route secondaire, et ben on sait que sur cette route secondaire, voilà, il y aura une lune au bout. C'est systématique et c'est vrai qu'il y a une sorte de répétition.
C'est pas une sorte de répétition. Dans les Mario, si je devais faire une courbe de progression, il y a vraiment des pics d'excitation. Quand on réussit à arriver à passer un passage compliqué pour récupérer, ouais, une étoile, ce qui n'arrive pas si souvent, enfin on a une étoile régulièrement, mais ce n'est pas tout le temps. Là, c'est littéralement tout le temps. C'est-à-dire que vous allez réussir un passage très compliqué de plateforme. Vous avez sué sang et eau pour arriver en haut de cette tour où il y a en effet une étoile tout en haut. Vous récupérez votre lune, pardon, c'est une lune. Vous récupérez votre lune, vous redescendez, vous tapez un caillou, il y a une lune aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est, ouais, la récompense,
du coup,
finalement.
Ça réduit. Moi, alors. Toi, tu parles de ces deux défauts. Alors, moi, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup ce Super Mario Odyssey, que je rapproche pas mal de Super Mario Sunshine, oui, en termes, voilà, de lieux à explorer, d'exploration et ce genre de choses. Après, alors je suis assez d'accord. Alors que je ne suis pas un chantre de la difficulté, généralement, les gens le savent, ceux qui nous écoutent depuis longtemps le savent, je ne suis pas un chantre de la difficulté. Mais concernant les Mario et les jeux de plateforme, je trouve que la difficulté, le défi, l'obstacle est une composante majeure du game design. Et j'ai été assez étonné, par exemple, de finir les 3, 4, 5 premiers boss sans perte de vie, pratiquement, enfin, du premier coup. Alors que normalement, il y a aussi ce plaisir de découvrir... comprendre le pattern, le gameplay, mourir et puis recommencer. Puis là, on a bien compris, on va arriver à la fin du boss. Et là, on n'a même pas besoin de ça. Ça va très très vite. Finalement, en esquivant un tout petit peu, bah, on comprend le pattern et puis direct, on...
Et tu parles des boss, beaucoup de recyclage de boss aussi. Bon, ça, souvent dans Mario, c'est le cas malheureusement.
Moi, j'ai un problème un peu plus profond avec ce Super Mario. C'est l'esthétique.
Ah oui, t'aimes pas. Oh,
j'ai un énorme problème avec ça. C'est que je le trouve complètement incohérent.
Ah, mais je crois que c'est le but. Hein.
Non, mais c'est. Bah ouais, mais. Enfin, là, je parlais de Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine, il y avait de l'exploration, mais il y avait cette cohérence de l'île et qui amenait quelque chose. On découvrait différents lieux d'une île. Là, il y a ce voyage, effectivement. À chaque fois, c'est un pays et tout ça. Mais alors, non seulement il n'y a pas de cohérence entre les pays, entre les régions. Qui sont à chaque fois thématiques sur le désert, la forêt, l'eau, la ville, ce genre de choses. Mais c'est pas beau.
Ah, tu trouves,
okay. Ah non, je suis désolé, que ce soit sur la palette des couleurs, que ce soit sur le design, je suis désolé, ces lapins au début, alors en plus... En plus, c'est con, mais il y a Mario versus Rabbids qui est sorti il y a un mois, il y a un mois et demi, qui était... Alors après, on peut critiquer le game design, tout ça, moi, que j'ai beaucoup aimé, mais en termes de design visuel, il était bien. C'était une réussite, c'était une cohérence. Et là, on voit Nintendo, et Nintendo, ils font dans le patchwork. Là où Ubisoft a réussi finalement à intégrer les codes de Mario à l'intérieur de l'univers des lapins crétins, ou inversement, mais a réussi à partir d'éléments hétérogènes à créer une esthétique homogène, ce qui était vraiment un défi pour moi, et ben je trouve que Nintendo, eux, c'est pas beau. Je suis désolé, il y a un moment donné, alors le jeu est très bien, ne dites pas que je dis du mal de Mario, mais parce que c'est pour le coup...
C'est pareil, le jeu est très bien, je dis des non, jeux, non, mais c'est du pinaillage.
Je m'amuse vraiment beaucoup, mais qu'est-ce que c'est pas beau.
Alors,
c'est un problème
quand
même.
Je trouve dur sur le c'est pas beau. C'est beau.
Non, c'est pas beau. Tu peux pas dire que c'est beau. C'est graphiquement ok, d'accord, ça marche, c'est fluide, tout ce que tu veux. Tu peux pas... On en reparle dans 5 ans quand ce sera redescendu, à un moment donné, l'histoire retiendra que ce jeu est laid.
Artistiquement parlant, en fait, ce jeu en effet joue sur l'aspect patchwork. Et je suis conscient que ça plaît pas à tout le monde et que ça soit divin. Moi, le chara-design des personnages de la ville qui sont des vrais humains, ouais. est horrible. Je suis d'accord, c'est horrible. Et c'est, en fait, c'est là où elle, c'est là que moi j'aime bien, c'est le côté un peu dérangeant de chaque monde. Genre, il y a le monde de la cuisine, par exemple, est tout sur le low poly. C'est à chaque fois un style visuel différent pour chaque monde. Et moi, alors moi, pareil, le monde des chapeaux est tout en noir et blanc, avec un aspect un peu Tim Burtonien. Ouais. Moi, ça me plaît bien à chaque
c'est
fois.
Raté. Bon, ben. C'est on sent l'intention. D'accord. Je trouve qu'on sent l'intention, mais on est trop à mi-chemin entre des choses. Ouais. Enfin, il y a pas de choix radicaux. Mmh. Et ça manque, je trouve, de choix radicaux. Du coup, on est dans un. Enfin.
J'ai bien senti que c'est la cohérence, de toute façon, qui était le problème.
Et voilà, il est pas beau. Enfin, et surtout quand on sort de. Voilà, je disais, le Mario et le lapin crétin qui a réussi à faire quelque chose de visuellement hyper intéressant. Bah là, je suis désolé. C'est.
T'es pas le seul à avoir cet avis-là sur le monde, l'univers. Mais le consensus, c'est plus que genre, c'est spécial. C'est pas moche, c'est spécial.
Mais oui, parce qu'on est toujours dans cette phase où un Super Mario vient de sortir et personne ne veut critiquer parce que c'est
Nintendo. Non, je suis le premier à critiquer Mario.
Franchement, l'histoire retiendra qu'il est moche.
Oh, je suis pas d'accord. Je pense que moi, regarde, juste le monde des chutes, je le trouve très beau. Le monde, le New Donk City, tu enlèves les gens, il est très beau. Tu vois, c'est vraiment une. C'est vraiment une notion, je pense, de différentes univers graphiques qui est en effet compliqué à gérer parce que le cerveau doit s'adapter à chaque fois à un nouvel univers. Il est dérangeant en fait ce jeu, plus que en termes graphiques. Hein, moi, je le trouve quand même beau. Il a un certain charme. Il y a beaucoup de textures qui sont jolies.
Moi, pour les différents Super Mario canoniques, les galaxies étaient hyper cohérents avec les planètes et tout ça.
C'était cohérent.
Mais cohérent et beau et Super Mario Sunshine, c'était très très bien. Super Mario 3D pour l'époque était une tuerie. Enfin, je veux dire, les Super Mario canoniques, ils sont cohérents, ont une esthétique, ont une logique. Et là, ça.
Bah là, c'est pas de joueur. Ça, on peut pas lui. Je suis d'accord avec toi, c'est complètement pas de joueur.
Bref.
Après, voilà, les musiques sont super par contre, et le jeu est fluide d'un point de vue technique.
Les musiques sont exceptionnelles.
Ouais,
je suis d'accord.
Les musiques sont très bien.
Les mondes, les différentes musiques de chaque monde sont vraiment un
voilà. Sinon, il n'y a pas grand chose de très à dire sur ce Mario qui, je pense. Faudra que ça retombe un peu, t'as raison, pour qu'on se fasse un vrai.
Moi, je m'éclate, hein. je suis vraiment ravi.
Moi, je suis à 700 lunes, c'est n'importe quoi. C'est,
Alors, à cette période, à ce moment de l'émission, normalement, nous accueillons Monsieur Fall, mais Monsieur Fall, il est toujours pas revenu. Il va revenir. Hein. On échange des mails et tout ça.
Il joue à Mario.
Il joue pas à Mario, Monsieur Fall. Mais on va revenir sur Enterre-moi mon amour avec Pierre Corbinet. Merci encore d'être là et on va regarder un deuxième extrait donc de la bande-annonce d'Enterre-moi mon amour. Donc, Enterre-moi mon amour, jeu narratif, on l'a dit, avec quelques arborescences, quelques grands choix. Pourtant, reste aussi cette impression de. Quand on est habitué aux jeux vidéo, peut-être les gamers, les choses comme ça, seront peut-être assez surpris d'avoir finalement des grandes phases de dialogue où à chaque fois que Majd parle, on ne doit pas faire un choix. En fait, ça n'a pas été. Vous n'avez pas fait ce choix finalement qui est aussi assez intéressant, notamment des Telltale ou de mettre des choix dans le dialogue qui ne sont pas forcément des arborescences. On sent très bien que vous, à chaque fois qu'il y a un choix dans les dialogues. Se crée une mini arborescence derrière.
Oui, ça, c'est sûr qu'on ne doit pas y avoir un seul moment où il y a un choix qui ne mène pas à deux chemins différents, au moins petits.
Ouais.
On ne voulait pas faire des choses comme qui pouvaient exister dans Lifeline, on n'a pas voulu faire des choses comme ça. Et l'autre truc, surtout, c'est qu'on n'avait pas envie de laisser le joueur avoir complètement la main non plus. Parce que c'est l'histoire de Nour et Majd. Et Majd, c'est un personnage qui a été conçu avec un caractère qui n'est pas neutre, qui des fois peut sembler désagréable à beaucoup de gens, des fois.
Il est conservateur, sur
la
morale et tout.
Conservateur.
Il n'est pas content qu'elle boive de l'alcool, notamment. Bah,
il peut être jaloux, il peut être un peu raciste des fois aussi.
Oui, totalement. Ouais.
On avait voulu décrire le personnage comme ça. Et donc, du coup, le joueur n'est pas vraiment Majd. Le joueur, il va des fois... pouvoir oui. choisir entre deux répliques de mage, mais qui vont déjà être de toute façon orientées dans son caractère. Ouais. Et ouais, il faut l'accepter avec ça. Donc ça, ouais, c'était un choix qui n'est pas si fréquent, je pense, en fiction interactive,
non.
qu'on nous a reproché.
Pas
reproché en mode, du coup, ça gâche le jeu, mais dans le sens où ouais, voilà, on nous a dit, ah, le personnage de mage, de là, bah, des fois, je ne supporte pas.
Non, et stop. Hein. Enfin, les jeux narratifs, souvent, le point, j'ai l'impression qu'une espèce de chimère qu'on est obligé de toujours chercher, c'est nécessairement la liberté d'incarner un personnage. Des fois, c'est bien aussi d'avoir un petit peu un
personnage parfait neutre, c'est
faire
chiant,
un choix.
Quoi.
Oui, ouais. Voilà, exactement. Moi, je trouve ça bien d'avoir fait ce parti pris d'en effet mage c'est lui quoi, et en fait nous on l'influe un tout petit peu dans des choix de qu'est-ce que tu penses qui est mieux stratégiquement de faire ou sur le quoi t'as plus de mais c'est bien d'avoir donné un caractère au personnage, je pense.
Il y a eu quand même on va en parler parce que ça m'a interpellé hein, ça m'a pas du tout choqué hein, je précise tout de suite hein, mais c'est il y a quand même des moments où on voit aussi l'ambiance hein, générale en France notamment et tout ça. Il y a des moments où ça parle de l'islam, ça parle du voile, ça parle de la prière, enfin voilà, parce que mage des musulmans pratiquants et musulmanes moins pratiquantes. Ouais. Mais ben, voilà, c'est un couple. Hein, c'est
Nour, c'est le démon.
non, mais on. Du coup, c'est aussi parce que. Ni Florent ni toi, net musulman. Enfin, c'est en quand on écrit aussi dans ce genre de choses. Après, il y a Dana hein, qui est là, votre coup, référence.
On a beaucoup ouais. échangé avec Dana aussi sur ouais. ce genre de choses. Et c'est de toute façon des sujets qu'on a toujours abordés de manière très très superficielle.
Ouais.
Parce qu'en fait, du coup, ce sont deux personnes qui envisagent pas forcément la religion de la même manière, ouais. mais qui se connaissent depuis longtemps. Ils se sont déjà dit tout ce qu'ils ont ouais. à dire sur ce sujet-là.
Ouais,
donc, temps, ils vont peut-être s'envoyer des pics, machin, mais il ne va pas y avoir de débat à aucun moment, puisque chacun, ils s'aiment et qu'ils savent très bien la position de l'un et l'autre.
Et ben moi, j'ai trouvé ça. Les
désaccords sont déjà connus, en fait.
J'ai trouvé ça très reposant.
D'accord.
Non mais c'est vrai que on est aujourd'hui en France depuis quelques années déjà hein, c'est pas depuis quelques mois mais une sorte d'hystérie hein, autour de ces sujets-là que ce soit d'ailleurs le sujet des migrants, que ce soit le sujet de l'islam, et là on se retrouve dans un dialogue WhatsApp entre deux personnages où finalement c'est le quotidien qui l'emporte, c'est l'humour, c'est la tragédie aussi. Enfin, c'est des choses qui sont pas faciles ni à lire, ni à vivre, encore moins à vivre hein, quand on l'est. Mais il y a cette interactivité aussi, là qui crée un sentiment d'identification. D'ailleurs, qui est, comme tu l'as dit, on n'est pas Majd, on n'est pas Nour, hein, mais on est quelque chose entre les deux, parce que finalement, on s'identifie aussi aux deux personnages en même temps. Et
les gens vont avoir tendance plus souvent, je crois, à s'identifier à Nour.
Oui.
Alors qu'ils incarnent Majd.
Ouais.
C'est des choses qu'on m'a dit.
Oui, et du coup, je trouve que je pense que aussi c'est la force du jeu, c'est la force de cette identification-là, où on reste. On reste dans quelque chose finalement d'assez léger, mais qui est tellement éloigné de l'hystérie que c'est presque un parti pris, c'est presque quelque chose d'assez important.
Ah, on n'a jamais eu l'intention de. L'idée c'est pas de jeter un pavé dans la mare, politique, c'est pas. Donc ce qui nous intéresse,
ouais, mais l'humanité générale, des fois l'humanité est politique aussi, hein, c'est.
Oui. Non, mais après, c'est... si dire que les réfugiés sont des êtres humains et politiques, ben, dans ce cas-là, oui, c'est politique, ouais. quoi. Mais moi, il me semble que c'est pas quelque chose de vraiment qu'on peut discuter, mais.
Islam mis de côté, moi, je trouve que le jeu ne tombe pas dans un piège que beaucoup de jeux narratifs tombent, c'est la recontextualisation forcée de différents éléments. Par exemple, il n'y a pas. Il n'y a pas dans le dialogue. Genre, est-ce que tu as fait ton ramadan ? Tu sais le moment où tu jeûnes et tout. Mais non, elle le sait techniquement ce que c'est le ramadan. Enfin, il n'y a pas ça dans les dialogues, mais
ça se passe pas.
C'est une explication. C'est un exemple, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mise d'explication sur des choses qu'on.
On vit le quotidien.
Voilà, on vit le quotidien. C'est vraiment. On va discuter. Genre, elle fait une critique sur je ne sais plus quelle mosquée à un moment donné avec le nombre de minarets et tout. Elle n'est pas en train de dire oui, tu sais, le minaret, la tour. Ben non, on sait ce que c'est qu'un minaret normalement si on est dans la peau de Majd, quoi. Donc je trouve que le texte ne tombe pas dans ce piège-là, et c'est bien, parce que souvent, ce qu'on a souvent dans ces jeux-là, c'est une recontextualisation forcée, genre, c'est quoi ce dialogue qui est censé nous expliquer la date.
C'est un serious game, hein, enfin,
il n'y a pas de vocation éducative, et l'idée, c'est ça. C'était peut-être le plus réel possible.
Du coup, ça rend le dialogue très léger. Enfin, tous les dialogues sont assez légers puisque tout est normal, tout est déjà intégré. Et voilà.
Sur le site du jeu, j'ai découvert un truc. c'était explicité sur le site du jeu, donc je pense que je ne spoil pas. Mais en fait, c'est les quatre variables de Nour.
où en fait finalement il y a des choses qui ne sont pas explicitées aux joueurs parce que Noor est géré par quatre variables qui est le moral, le niveau de relation avec Mage, le budget parce qu'elle en parle régulièrement et la présence ou non d'un objet particulier dans son inventaire.
C'est ce que j'étais en train de me dire, non, il n'y en a que trois des variables, mais du coup voilà, la variable des objets.
Et du coup, mais on n'a jamais accès à ces variables.
C'est normal.
Et oui, bah si, l'argent de temps en temps, du coup.
Oui, l'argent de temps en temps.
Mais on n'avait pas justement envie qu'il y ait on voulait avoir gardé l'interface WhatsApp.
Ouais.
Donc on voulait pas qu'il y ait une interface avec tes trucs. Sinon, il y a un côté très, du coup, qui devient très Tamagotchi, quoi.
Ouais.
Ah, Noor n'a pas trop le moral, il faut trouver le moyen.
Oui, c'est vrai.
On voulait absolument pas faire ça. On voulait que si elle n'est pas le moral, qu'elle le dise, que ça se sente.
Et on le ressente à l'écriture. C'est pas évident, ça.
Autre chose qui était très très important, c'était que du coup, on se retrouve à jouer le Majd, qui donne des conseils à Noor et tout, mais on avait. L'idée, c'était pas du tout que ça soit genre le mari qui contrôle sa femme à distance sur son téléphone.
Non,
quoi. Et qu'en fait, les décisions que Noor va prendre sont souvent plus liées aux variables qu'aux décisions de Majd. Si par exemple, Majd a pu lui dire des trucs qui lui plaisaient pas avant, et ensuite il va lui dire ça serait plutôt bien que tu fasses ci, et puis non, mais écoute, je t'emmerde. Moi j'avais l'intention de faire ça, je vais faire ça de toute façon, t'as pas réussi à me convaincre d'aller.
Donc, ça arrive plusieurs fois, donc c'est assez. D'ailleurs,
on voulait surtout pas que ça donne cette impression de diriger à distance Noor, parce que c'est pas ça du tout, c'est pas un roguelike où il faut essayer de lui faire prendre le bon chemin pour arriver à la bonne fin. C'est une histoire qui se raconte.
On n'aura sans doute pas le temps de parler de tes activités passées. Tu continues Game Jam?
Ouais, j'étais à Splash Jam il n'y a pas longtemps. Donc c'est une Game Jam sur un bateau de croisière au nord du cercle arctique. C'est fou.
Il y a un truc dans les petits jeux, donc tu es au jeuxvipo.fr, c'est ça l'adresse. Vous pouvez aller voir, il y a plein de jeux de pierre qui sont librement jouables. Il y a un truc dans tes jeux qui m'intéresse depuis assez longtemps et qu'on retrouve dans Terre mon amour, c'est les dialogues réels en fait. Mm-hmm. Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'attaches? C'est que ce soit dans Terre mon amour ou d'autres jeux où tu as écrit, quand deux personnages se parlent, c'est deux personnes qui se parlent. C'est pour ça que ça m'amusait ce que tu disais tout à l'heure sur le côté écrit, mais peut-être une de tes marques de fabrique, c'est d'avoir une sensation de dialogue, d'oralité, de réalité, de choses qui ne sont pas surécrites ou tout ça. C'est quelque chose que tu tiens qui...
C'est
juste un talent inné, c'est ça?
Ouais, mais non, je pense qu'en fait, ça vient beaucoup, beaucoup de la bande dessinée. En fait, moi, le jeu vidéo, je m'y suis vraiment mis, on va dire, en 2010, quoi. Mm. Et avant ça, j'étais beaucoup
Je suis
pas un vrai gamer, j'ai joué un peu à Mega Drive à enfant, puis après, il y a eu du long passage à vide, on va dire. Et du coup, non, j'étais beaucoup dans la BD1D, hein, bande dessinée alternative, bande dessinée indépendante, et c'était vraiment ça. Et je pense que. Dans la BD1D, du coup, le ton des dialogues, c'est quelque chose qui a été peut-être affiné plus rapidement que ça l'a été au jeu vidéo, où du coup. Donc peut-être que ça vient de là.
D'accord. Voilà. En tout cas, enterrement mon amour, je sais même plus, elle est gratuite, payante.
C'est 3,50€.
3,50€, il ne coûte rien. Voilà.
Sur Android et Apple. Et sinon, il y a le prologue qui lui est gratuit sur le site d'Arte.
D'accord.
Donc qui est une sorte d'introduction qui n'est pas dans le jeu.
Arte qui commence à faire régulièrement des jeux comme ça.
Ouais. Encore une fois, un dernier détail, c'est jouer sur son téléphone avec une interface WhatsApp, bien marché sur Normal Lost Phone. On joue sur des interfaces de téléphone avec un téléphone. C'était bien.
J'ai bien aimé le concept. J'ai beaucoup plus de réserves sur les dialogues. Bref, on n'est pas là pour en parler.
Mais bon, il y a aussi cette sensation de réalité qui est liée à l'objet même, que je trouve vraiment vraiment super intéressante. Donc en termes de mon amour, à télécharger donc sur les stores. De iOS et on n'aura pas le temps on peut parler de Golf Story, je vais pas passer la bande annonce, mais c'est jeu de golf, RPG de golf, franchement, qui est
en deux minutes il s'agit donc d'un RPG de golf, en pixel art vu du dessus, donc vous incarnez un jeune golfeur qui le golf c'est sa passion, son papa lui a appris le golf quand il était petit, un jour il se réveille, il fait je vais devenir champion, et il se lève, il va devenir champion. Donc il va dans
c'est,
un C'est, bah, y a,
moi,
y a...
j'ai une attirance pour les jeux de golf. Ça vient de, alors, de très loin, mais et franchement, je m'éclate sur Golf Story.
Alors, il y a deux choses. C'est sur Switch, donc c'est très cool, notamment pour y jouer en mode portable, et c'est parfait pour des petites sessions. Ouais. La deuxième, c'est que donc c'est très scénarisé, et on ne fait pas que jouer au golf dans ce jeu de golf. Il y a des moments où en fait, on va résoudre des petites quêtes de RPG à la con, courir autour d'un lac, ce genre de choses. Mais quand même, le cœur du gameplay, c'est du golf, donc tout ce que vous connaissez dans le golf, donc une barre qui va à gauche, à droite, mettez la puissance, vous mettez la précision.
Le seul détail qui est peut-être un peu frustrant, c'est qu'il y a rarement, très très rarement, de vrais parcours de golf. C'est tout le temps des trucs avec des animaux, avec des machins et tout ça. Mais...
Le parcours de golf dans chaque monde, puisque l'univers de Golf Story est divisé en plusieurs mondes, un peu comme dans un Mario, hein, voilà, il y a le monde des neiges, le monde des dinosaures, machin. C'est en fait le parcours de golf à 9 trous, c'est le pinacle, enfin c'est le boss final de chaque chapitre d'une certaine manière, et un peu la récompense. Cela dit, il y a un mode multijoueur à l'intérieur du jeu qui est plutôt cool, je pense pour chiller avec des bières, ça va être nickel. Et donc vous jouez au tour par tour, chacun à votre tour, soit on se passe, s'il faut se passer la manette ou non, mais grosso modo vous pouvez choisir la taille des trous, s'il y a du vent, pas de vent, s'il y a des obstacles, quel parcours vous voulez. Donc ça c'est plutôt cool qu'ils aient mis comme ça un mode libre dans le jeu. Quels sont les bons points quand même? Des jolis graphismes, un humour, on sent qu'il a été fait avec amour ce jeu.
Mais oui, c'est ça.
Les mauvais points, techniquement, Le jeu a planté déjà plusieurs fois en ce qui me concerne. J'ai eu des bugs, notamment de caméra, un petit peu ennuyeux. On espère qu'il y aura des mises à jour. Moi, j'espère qu'il y aura vraiment des mises à jour. Et des musiques un peu soporifiques. Ouais. Mettez-vous une autre musique derrière et ça sera nickel. Sinon, pour le reste, notamment si vous avez aimé les jeux de golf par Kaamelott de Mario Golf sur GBA, je pense que c'est le genre de jeu qui va vous plaire. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil à ce jeu. Il coûte pas très cher.
Par un duo d'Australiens de Sidebar Games.
C'est disponible sur Switch uniquement.
Voilà. Sur Switch.
Ouais.
Moi, ça me faisait envie.
Bon bref. Merci. Merci à tous les deux. Hein. Merci Pierre d'être passé nous voir. Mais on ne va pas finir cette émission sans la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin ?
Eh bien, en ce moment, alors attendez, je l'ai pris. Hop là, voilà. Donc, je suis en train de le rattraper Emma. Voilà. Donc, c'est un manga de Kaoru Mori. Enterre-moi mon amour. Emma, donc de Kaoru Mori, c'est la dame qui avait fait Bread Stories, pour ceux qui connaissent. Et donc, ça raconte l'histoire d'Emma, femme de chambre à l'époque victorienne en Angleterre, et qui va tomber amoureux, et ça va être réciproque, de William, un riche bourgeois parvenu, puisqu'il y a encore les nobles et les parvenus à ce moment-là, donc les gens qui ont réussi dans les affaires. Et voilà, évidemment, toute la société va être contre cette union. Et donc, ça raconte un petit peu l'histoire de cet amour interdit, un Roméo et Juliette d'une certaine manière, autant de l'époque victorienne. C'est édité chez Kiun, ça date de 2012, cette réédition-là. Le manga en lui-même date de 2002. Ça se vend en gros tomes comme ça, il y en a 5. Et c'est super, je glousse comme une midinette dans le métro. Les amourettes, ça me plaît. Voilà.
Pierre moi, du coup, je n'avais pas trop préparé. Non, mais je sais pas ce que je suis en train de lire, c'est l'insoutenable légèreté de lettres de coup de déra. Je me rends compte que ça fait un peu prétentieux, oui. Mais j'en ai bien conscience, mais c'est un beau bouquin que je recommande de lire.
C'est sympa.
Il
vient de sortir, non.
Ouais, il est sorti il y a quelques temps, quelques années. Mais je ne suis pas encore à la fin, je ne saurais pas trop en dire beaucoup plus.
Moi, je me suis décidé à regarder, alors malgré tout le mal que j'en avais entendu à ce propos, j'ai regardé Iron Fist sur Netflix. Oula. Voilà, qui est les séries Marvel. J'avais vu Jessica Jones, que j'avais trouvé très très bien, Daredevil, que j'avais trouvé très très bien. Iron Fist, je suis allé jusqu'au bout. Donc, finalement, est-ce que je peux dire que c'est vraiment nul à chier? Non, parce que je suis allé jusqu'au bout. Donc, mais c'est pas bon.
Alors, c'est pas une raison.
Non, c'est pas bon. Il est pas bon, Iron Fist. Non, c'est vraiment pas. En fait, j'ai essayé, mais j'ai passé tous les épisodes à essayer de sauver ce truc. Mais ouais, mais parce qu'en fait, j'aime beaucoup Iron Fist, parce qu'il y a une série d'Iron Fist scénarisée, je ne sais plus par qui, mais qui est très très bien, en BD, qui est vraiment dans l'univers d'Iron Fist. Donc, je sais pas, j'avais un attachement au personnage, mais c'est c'est pas bon. Magnifique. Non, et donc en fait, je sais pas, j'hésite à regarder les Defenders maintenant parce que c'est dans la même lignée et ouais. Je sais pas ce que ça vaut. Mais je crois que Iron Fist est nul aussi.
Bah, vu que Jessica Jones et Luke Cage c'était bien, je pense quand même qu'il y a des chances que les Defenders soient pas mal, non?
Ouais, mais il y a la saison 2 de Jessica Jones qui arrive, donc ça devrait être cool. Voilà, merci, merci encore une fois à Pierre, merci Corentin d'être repassé. J'espère que tu repasseras nous voir quand tu auras un peu de temps.
À vous deux.
Et merci à vous, et on se retrouve très vite sur nos lives, sur les internets et sur libération.fr aussi. Ciao.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.